Bonjour, le travail c'est la santé, chantait Henri Salvador. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais précisément aujourd'hui le travail c'est le musée de l'outil au Monty. Les outils Monty et ça rime d'ailleurs. Et je vais le visiter ce musée en compagnie de monsieur Guy Auboire et de monsieur Daniel Chaudet. Et donc, ces deux messieurs vont nous accompagner dans cette visite. Et tout d'abord, je vais m'adresser à monsieur Guy Auboire pour lui demander, globalement, quel est le thème de ce musée, quelle idée générale préside à ce musée.
Alors, cette collection qui est importante puisqu'elle comporte plus de 1200 objets exposés, je précise exposés parce que nous avons des réserves aussi qui sont importantes, collecte des objets anciens, des outils anciens qui sont pour l'essentiel du 19e siècle et qui sont d'origine locale. Donc, c'est un véritable patrimoine local que nous avons mis en place. Grâce à une collection qui a été réalisée par deux habitants de la commune, monsieur et madame Simon Brossard, qui ont passé des dizaines d'années à collecter ces objets.
Donc c'est monsieur et madame Brossard qui ont été les précurseurs de ce musée.
Absolument. Le musée lui-même a été inauguré en 2011, mais c'est bien antérieurement que la collection a été constituée.
Alors, il y a un nom qui m'a intrigué, c'est le nom de Terwen. Alors, expliquez-moi ce que veut dire Terwen.
Alors, Terwen, c'est un toponyme local d'origine gauloise et qui correspond à la partie la plus ancienne de la commune des Montils. Et c'est également le nom qu'a pris l'association qui gère le musée.
Voilà, puisque c'est l'association Terwen qui gère ce musée, d'où mon interrogation. Alors, pour monter ce musée, pour ouvrir ce musée, le développer, est-ce que vous avez été encouragé par la municipalité, par les instances et par les habitants des Montils, par les Montillois en général?
Oui, alors c'est une large coopération, puisque beaucoup de donateurs sont des personnes locales. La collection a été donnée par monsieur et madame Simon Brossard à la mairie, avec l'établissement d'une convention qui voulait qu'il y ait un local qui puisse accueillir cette collection, local ouvert bien sûr, aux visites. Donc c'est une véritable coopération. La municipalité a toujours été partante pour nous aider, puisque ici nous sommes dans un local qui était en fait l'ancienne école, puis l'ancienne poste, et depuis le départ de la poste, il est aménagé ce local en salle d'exposition.
Et la population, dans son ensemble, qu'est-ce qu'elle a pensé quand elle a eu connaissance de ce projet et qu'elle en a vu l'ouverture?
Écoutez, dans les premières années, on a eu un afflux de population, non seulement local, mais également plus large. Hein, des gens venaient de toute la région. Maintenant, nous sommes en quête de lisibilité pour ce musée, parce que bien évidemment, il faut renouveler également les populations qui visitent, notamment en direction des scolaires, des personnes âgées qui sont très intéressées, parce que bien sûr, ces personnes âgées revivent un petit peu leur jeunesse en regardant ces outils exposés. Quant aux jeunes, eh bien, on leur fait des démonstrations, il y a des ateliers qui leur montrent comment étaient utilisés ces outils qui, pour certains d'entre eux, ont disparu.
Et alors ces jeunes, comment ils perçoivent cette démonstration? Est-ce que ça leur laisse une interrogation ou quelque chose d'absolument inconnu? Ou est-ce qu'ils ont une petite idée de ce qui se passait auparavant?
Disons qu'ils débarquent dans un domaine qui leur est complètement inconnu. Et c'est vrai que faire des démonstrations d'utilisation d'outils les intéresse beaucoup.
Oui, j'imagine que c'est quelque chose de nouveau, ça les change du smartphone.
Voilà, ils ont les yeux écarquillés et savoir comment on faisait la lessive au siècle dernier, pour eux, c'est une découverte totalement nouvelle.
Oui, c'est la préhistoire pour eux d'ailleurs. Alors donc, tous les outils vous ont été donnés par les habitants, ou du moins par les gens d'ici. Mais combien de temps, je ne sais plus si vous me l'avez dit, combien de temps était nécessaire pour réunir toute cette collection qui perdure, qui se poursuit actuellement?
Bah écoutez, lorsque M. et Mme Simon Bressart ont réalisé cette collection, ça leur a pris plusieurs dizaines d'années, puisqu'ils allaient de brocante en vide-grenier pour les collecter et pour les restaurer. Et aujourd'hui, on continue d'avoir des propositions d'acquisition de matériel. Le problème, c'est bien sûr la place, puisque le musée est déjà largement pourvu, mais nous examinons chaque demande et éventuellement nous prenons les matériels s'ils présentent un intérêt.
Oui, et là je confirme que la place est bien occupée dans ce musée. C'est impressionnant, il est impressionnant de voir autant d'objets accrochés sur des panneaux au mur. C'est vraiment, la place est limitée au maximum, mais on y voit quand même très clair. Et je crois que vous avez une nomenclature, un catalogue pour les explications.
Oui, c'est ce que je disais, non seulement ces outils ont été collectés, mais ils ont été répertoriés, identifiés, et leur histoire a été reconstituer, ce qui en fait, de mon point de vue, un véritable patrimoine ethnographique.
Oui, et ce patrimoine ethnographique vous était transmis, vous était donné par les donateurs des outils. Et qu'en ont pensé les donateurs quand ils vous donnaient un outil? Est-ce que c'était un déchirement chez eux ou c'était un plaisir ou une fierté éventuellement?
Bien, les personnes qui étaient souvent des personnes âgées devaient, pour une raison ou pour une autre, se défaire de leur patrimoine. Et l'alternative n'était pas très évidente, puisque bien souvent, les enfants ne veulent pas ou ne peuvent pas recueillir ces matériaux qui, pour certains d'entre eux, sont très volumineux. Et donc, ils voyaient comme une sorte de solution intéressante pour tous, pour eux, pour la collectivité, de voir finalement ces outils non pas partir à la déchetterie, mais être au contraire réhabilités et exposés.
Oui, c'est un prolongement de leur vie, de leur activité, c'est très affectif.
Tout à fait. Parfois, il y a même les larmes aux yeux pour certains d'entre eux de voir revivre leurs outils.
Oui, oui, j'imagine que ça doit être très émouvant à certains égards. Alors, autre question, parce que quand on voit le nombre d'outils, d'instruments, d'objets qui sont ici, il faut bien les entretenir. Alors, comment le faites-vous? Est-ce que vous êtes de nombreux bénévoles? Parce que j'imagine qu'il vous faut du monde.
Mais écoutez, on n'est pas forcément nombreux. Mais on est dynamique et nous avons parmi nos bénévoles de véritables spécialistes de la restauration, parce que ça demande beaucoup de technicité, de savoir, de précaution, et on voit revivre des outils qui, on aurait pu le penser, étaient perdus. C'est une passion pour nous de pouvoir remettre en état ces outils.
Bien. Mais écoutez, Monsieur Aubouard, je vous remercie. Vous aviez peut-être quelque chose à rajouter je vais commencer la visite?
Simplement que le musée est ouvert toute l'année, sur demande, sur rendez-vous. Donc il n'y a pas de souci, il suffit de téléphoner ou de se rendre sur le site internet.
Voilà. Vous pouvez nous donner l'adresse du site internet et éventuellement un téléphone?
Musée sans accent, -les-montil, T-I-L-S à la fin, .fr.
Et le téléphone?
Alors, le téléphone 02 54 90 14 67.
Bon, je vous remercie pour cette présentation générale. Je vais me tourner maintenant vers M. Chaudet, je vais faire la visite pratique et puis qui va nous expliquer tous les outils. Alors, vous avez combien de thèmes?
Alors, le musée est organisé en panneaux, qui commence au numéro 1 et qui finit au numéro 38. Et donc 38 panneaux, et nous avons aussi deux garages où il y a des objets, des outils un peu plus importants.
Oui, ceux qui sont à l'extérieur, où on voit des objets beaucoup plus conséquents, hein, qui prennent beaucoup de place. Alors expliquez-nous pour commencer cette visite.
Alors je ne vais pas vous détailler chaque outil, je vais vous dire, vous préciser un petit peu ce qui a motiver les donateurs pour compléter ce que Guy Aubouard, président, a dit tout à l'heure. C'est à la fois l'utilité de l'ustensile ou de l'outil, l'esthétique, la qualité du travail du forgeron, la marque du forgeron ou du taillandier. Et voilà un petit peu, si pour l'entretien, vous parliez de l'entretien, il faut voir le travail énorme qui a été fait par le brossage et polissage de tous les outils, et après, cirage. C'est pour ça que les outils tiennent encore aujourd'hui, ne s'oxydent pas trop. Certains ont été passés aussi à l'huile de lin.
Ah oui, vous avez tout un entretien qui est peut-être simple, mais qui est évident et nécessaire.
Tout à fait. Alors, pour les visiteurs, ce qui intéresse les visiteurs, nous faisons des visites accompagnées et commentées, et nous mettons l'accent sur certains objets un petit peu atypiques ou alors qui ont servi, qui servent localement. Donc, nous allons commencer par les 2, 3 panneaux, 4 panneaux sur la cuisine. Je peux vous faire voir quelques objets ou outils particuliers.
Oui, quelques objets qui sont un petit peu, qui sont pas très familiers.
Familiers, d'autant que les donateurs étaient passionnés par l'Auvergne et ont rapporté beaucoup d'outils de cette région. Vous avez par exemple ici un déboire à dour.
Alors explique.
Alors c'est un peu particulier. En réalité, c'était fait pour enlever la première peau des châtaignes. Dans un récipient à col étroit, on faisait chauffer les châtaignes et en repliant les deux bras, les deux poignets, on pouvait tourner ainsi et enlever la première peau des châtaignes.
Ah oui, pour le coup, là, c'est vraiment un objet dont on n'est pas trop habitué ici. Enfin, les Auvergnats,
tout à fait,
effectivement.
Mais il y en a aussi dans le Limousin. Là, je vais simplement vous montrer l'esthétique de certains gaufriers, moules à gâteau, encore un gaufrier avec une esthétique incroyable. Il y a aussi des outils qui ont été fabriqués, comme les gens n'étaient pas toujours trop riches, des outils qui étaient faits avec
avec les moyens du bord,
avec trois fois rien. On retrouve par exemple une brosse à vaisselle faite en chien dents, beaucoup d'objets faits en bois. Vous avez l'ancêtre du presse-purée ici, familial. Un objet qu'on retrouve un petit peu dans les châteaux par ici, c'est un potager. Ça servait à maintenir les plats au chaud. Donc on mettait de la braise et puis on pouvait maintenir les plats au chaud avant de prendre le repas. Vous avez par exemple un billot qui a vécu. Il y a beaucoup d'outils qui ont vraiment vécu, où on voit la sueur de l'homme.
Je vois cette brosse, vous me parlez de cette brosse, ça me rappelle, il y a quelque temps, il y a eu à Blois la fête de la récup, où justement on donne des conseils pour récupérer des vieux objets et en faire des outils de tous les jours. Et ça me rappelle, curieusement, c'est aussi un recyclage des objets. Hein.
Tout à fait. Alors, je vous laisse aussi poser des questions. Nous, par exemple, avec les anciens, justement, ça fait une visite animée avec des questions-réponses, des interrogations. Et c'est ce qui fait l'intérêt de la visite de ce musée.
Oui, bien sûr. On a toujours quand même des questions sur ces objets dont on ignore. Moi, la plupart, je crois que j'aurais 30 000 questions à vous poser parce que la plupart des objets, je ne les ai jamais vus.
Tout à fait. Bon, ici, c'est un peu plus classique. C'est un petit peu tout ce qui concerne le lait et la laiterie, avec de beaux moules à beurre, avec des motifs sculptés.
Oui, il y a vraiment de très très beaux moules. Hein. Ouais. Alors, on continue un petit peu la visite. Il y a quelques costumes également. On a quelques costumes traditionnels.
Très belles factures de la région, hein, puisqu'ici on est à la limite de la Sologne agricole. Là, vous avez, quelques objets de la maison, avec quelque chose qui était particulier, ces grappins qui servaient à récupérer les seaux tombés au fond du puits.
Ah oui.
Donc, c'était l'utilité de ces grappins. On en trouvait beaucoup dans les fermes. Alors après, le système a été perfectionné en ayant un genre de mousqueton.
Oui, quand on voit un grappin comme ça, on pense plutôt à un bord de mer avec les bateaux, mais c'est pas tout à fait...
C'est pas une encre de bateau, pour les bateaux. Vous avez aussi, par exemple, je vous parlais d'esthétique, vous voyez cette poulie dont les raies, si on veut par là, sont en forme de cœur.
Oui. Ah oui. C'est très joli.
Là aussi, très une crémaillère, vous voyez comme elle a été nettoyée, qui est très jolie.
C'est vrai. Et oui, en tout cas, elle est très très belle. Elle était rénovée, enfin peut-être pas rénovée, mais simplement nettoyée, parce que ça s'use pas beaucoup finalement.
C'est un gros travail pour ne pas abîmer l'outil. Donc on utilise des brosses en nylon, donc c'est plus long.
Alors on continue.
Par exemple, Guy a parlé d'atelier. Vous voyez ici, nous avons un atelier pesage pour les écoles. Alors, pour préciser un petit peu, on appelle aussi les écoles à venir nous voir, puisqu'on a monté un projet pédagogique, on peut leur envoyer. Et nous faisons tourner les enfants 15 minutes par atelier, donc on fait 5 ou 6 ateliers, avec des ateliers dehors, des ateliers dedans. Donc ici, vous avez un atelier aussi pesage, on leur fait découvrir les balances romaines, la balance de quintance, qui est une balance au dixième. C'est... Ici, vous avez quelques objets aussi de la basse-cour. Il y a quelque chose qui est un petit peu atypique, ceci.
Alors ça, c'est quoi ? C'est... Alors, c'est une tige avec une espèce d'étoile, je ne sais pas
voilà,
si j'ai un peu plus...
C'est ouais. Joli. Voilà.
Ah, c'est joli, oui, c'est joli.
Alors, c'est une pince, une pince, si on veut par là, à grémir.
Ah ben, alors donc, la pince à grémir, vous allez me dire ce que c'est.
Parce que je donc, sais... du verbe grémir, c'est ah, pour oui. Écraser les pommes de terre pour les cochons.
Ah bon ?
Donc on tourne.
Ah bon.
C'est vrai que ça fait
alors, quand je
appel à d'anciens verbes.
Quand je fais ma purée, je grémis mes pommes de terre.
Hein ? Exactement.
Eh ben, mais vous avez, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, et j'allais vous poser la question, ou j'aurais pu la poser à monsieur Auboire également. Donc vous avez des activités à destination des scolaires.
Ah tout à fait. C'est maintenant peut-être le plus gros de nos visiteurs, et c'est un partenariat avec les instituteurs. Des écoles sont venues déjà plusieurs fois, et c'est très intéressant. C'est fatigant aussi, parce qu'on fait tourner les enfants. Alors, je ne sais pas si Guy a énuméré un petit peu les pôles de démonstration. Voilà, nous faisons la purée à l'ancienne, le café à l'ancienne, l'égrainage du maïs, le pesage, la lessive, la cueillette des asperges et même je fais aussi la fabrication de cordes.
Et alors, comment participent les enfants ? Ils sont dissipés, non ? Ils sont très attentifs
Alors, il y a une participation principale. Vous savez que l'énergie, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour. Eh bien, l'énergie, dans l'ancien temps, c'était les manivelles. Tous les outils, nous avons beaucoup d'outils avec des manivelles, que ce soit les barattes que vous apercevez là, les grainoirs à maïs, un hachorti, puisque les canards aimaient bien les orties, donc toujours des manivelles. Donc ils participent en tournant les manivelles.
Ils tournent les manivelles.
Et ça leur plaît beaucoup.
Oui, c'est une autre forme d'énergie.
Des sabots aussi, donc on les fait marcher avec des sabots et ça leur plaît beaucoup.
Alors là, nous arrivons chez les chaussures et les outils à bras.
Alors. Voilà, donc évidemment, nous avons les ancêtres des chaussures avec les galoches, les sabots. Perfection du sabot avec une tige en cuir, donc ça s'appelle les bourbettes. Donc quelques outils anciens. Alors ici, on a un aperçu du style d'outil. Les jardiniers me comprendront. Avec la terre, en fonction de la météo et de la terre, la constitution de la terre, il faut vraiment l'outil adapté. Donc ici, on voit qu'il y a des outils un peu impressionnants. Oui. Qui devait être très lourd à manipuler. Et tout ça, ce sont des formes esthétiques, donc ça rejoint ce que je disais, la recherche de l'outil un peu esthétique, soit pour faire des rigoles, soit pour jardiner, et notamment certains, dans les terrains caillouteux, ont des formes spéciales.
Oui, alors effectivement, on voit tout de suite qu'il s'agit d'instruments pour rentrer dans la terre, pour pénétrer la terre, mais alors avec des formes diverses et variées, en fonction effectivement de la finalité de l'ouvrage que l'on veut faire. Je reviens une petite seconde sur vos bourbettes, parce que moi je suis du sud du Loir-et-Cher, et c'est vrai que dans ma jeunesse, on parlait aussi des bourbettes. Moi pas trop, parce qu'on était à la limite de ce langage-là, hein, mais c'est vrai qu'on utilisait, les anciens utilisaient ce langage.
Voilà, alors il y a des bourbettes et vous avez ce qui va avec, c'est les guêtres. Donc c'est l'ancêtre de la botte finalement, avec le sabot, la tige et les guêtres qui se mettent autour du mollet en cuir. Voilà, et pour le confort, on mettait de la paille un petit peu à l'intérieur.
Ah bah oui, il faut quand même un peu de confort.
Voilà.
Ici, c'est les machines et voilà, puis alors, le greffage. Ah, greffage et la taille, ben oui, évidemment.
Donc ici, vous retrouvez l'esthétique du forgeron dans les roues, dans les passages de guide. Alors, ce sont des morceaux un petit peu d'outils, puisque ça va sur les charrues et ça permet de passer les guides pour pas que ça s'en mêle dans l'outil. Diverses clés, ça c'est un marchepied de voiture ancienne avec les clés des moyeux des voitures anciennes. Voilà, quelques lampes. Ici, évidemment, des sécateurs ou des serpettes pour entretenir la vigne. Donc, avec, évidemment, vu la taille, il fallait une grosse main, une main très musclée.
Une paluche, pour autrement dire.
Voilà, hein, ça servait à tailler, mais aussi à enlever, à nettoyer les ceps de vigne avec des petites haches ou des petites serpettes. associé au sécateur.
Ouais, ouais. Ici, là, quelques belles pièces ici, en cuivre. Ah oui, pour oui, les pompes à sulfater.
Donc voilà, quelque chose d'amusant, un tuyau pliable.
Ah oui.
C'est un tuyau plat. Ah, ouais. Alors ici, nous sommes vraiment dans le terroir de l'asperge et vous avez vraiment quelque chose qui est assez... assez notable, vous pourrez constater l'usure de la poignée.
Oui, oui.
Cette alors là, usure est due simplement au nombre de kilos, voire de tonnes d'asperges cueillies. Et le sable a permis d'user, donner
Une érosion sur le manche.
Une forme ergonomique.
Oui, oui, complètement à la gauche.
Cette gouge d'asperges. Oui. Autre particularité, si vous voyez les dessins qui sont sur l'âme de cette gouge, eh bien... on faisait déjà du recyclage, surtout que les agriculteurs voulaient de l'acier très solide. Eh bien, le forgeron reprenait d'anciennes limes de maréchal Ferrand pour reforger des gouges à asperges. Et vous voyez les traces de la lime.
Ah oui, effectivement, on voit les stries qui ont été faites par la lime. Ouais, oui.
Donc, la trace de l'homme aussi est importante. Donc ici, vous avez du matériel... à miel, une pince à arracher les choux, par exemple.
J'ai cru que c'était une pince de dentiste et j'ai eu peur.
Une belle collection de faucilles, avec un doigt de protection en bois.
Ah oui, ça c'est étrange, un doigt de protection en bois. Ah oui, ça protège bien, effectivement, les éventuelles maladresses ou dérapages de la serpe.
Donc là, vous avez encore, on arrive au panneau 21-23, et puis jusqu'à 28...
Voilà, ici, là, c'est les chevaux. C'est principalement les chevaux, là, les animaux, hein, d'une manière générale.
Voilà les animaux, avec quand même quelques pièces notables, comme cette pièce-là qui fait penser à... Vous allez me le dire.
Ben, ça me fait penser à un soutien-gorge. Hein.
Voilà, c'est la réflexion de tous les visiteurs. En réalité, c'est un masque pour mettre sur les yeux des bœufs avant de les soigner ou voire de les abattre. Donc, les animaux se calment lorsqu'ils sont dans le noir.
C'est la première fois que je vois ça. Je ne savais même pas qu'on le faisait, en fait.
Exactement. Ah ouais. Aussi, un engin de torture, ici, qui est assez impressionnant, avec des pointes au moins de 10 cm. Et ça, c'est fait pour sevrer les veaux. C'est-à-dire qu'on attachait ça sur le nez du veau, et lorsqu'il venait téter au pied de la vache alors qu'il n'y avait plus droit, il recevait un coup de pied de la part de sa mère. Et vous voyez que ça pique.
Ah oui, c'est bien, hein. C'est donc, tout à fait humain comme comportement.
On détaille aux visiteurs, même le site était... Alors là, Guy peut peut-être faire une petite parenthèse.
Oui, rapidement, il s'agit d'une vitrine qui expose quelques-uns des plus beaux silex qui a été trouvé sur la commune. C'est pour faire la jonction entre les outils les plus anciens, ceux-ci datent de 450 000 ans, et puis bien sûr les outils les plus récents. Hein, l'outil, ça a suivi en fait l'évolution humaine.
Oui, puisque là, on voit des bifaces, effectivement, et puis des haches néolithiques. Oui, effectivement, on est dans un autre... On est toujours dans les outils, mais ce sont toujours des outils d'une autre époque. Alors, on continue. Ben, on va bientôt arriver, je crois bien, on arrive vers la fin. On est allé très vite, hein, parce qu'effectivement, il faut beaucoup plus de temps. Nous, on a fait ça très, très, très rapidement, mais ce musée mérite quand même beaucoup de temps. Il faut combien de temps, tiens, pour bien le visiter?
Entre 1h30 et 2h.
Entre 1h30 et 2h, pour avoir une bonne idée des outils exposés.
Voilà, et puis surtout aussi pour échanger avec les visiteurs qui sont pris par le jeu, par les souvenirs, et c'est ce qui est très important, quoi. Ouais. Donc ici, vous avez beaucoup d'outils pour le travail du bois. Alors, on retrouve un petit peu les mêmes outils, que ce soit chez le charron, le tonnelier, le menuisier, voire le charpentier. Moins le sabotier, les outils sont un peu spécifiques, mais là vous avez vu les belles formes d'outils. Oui, oui. Tous les rabots, il y a beaucoup de rabots très particuliers.
D'une manière générale, c'est le travail du bois là. Donc effectivement, on retrouve des outils qui sont très proches, qui ne sont pas les mêmes, mais qui ont la même finalité, travailler le bois, hein, de toute manière.
Tout à fait.
Alors après on a le cordonnier. Le cordonnier.
Alors le cordonnier, il y a beaucoup de petits outils pour façonner les chaussures en cuir, hein, avec une machine Enfin, ça, c'est pour étirer les cuirs, hein, ces deux machines-là. Et puis, pour terminer dans cette partie abritée du musée, un petit peu pour les artisans du bâtiment et charrons, Avec, et là on voit par exemple la fabrication maison d'un outil pour caler les raies des charrues et pouvoir leur donner la forme avec les planes.
C'est vraiment une invention, c'est très ingénieux, hein. Les anciens étaient très ingénieux.
Exactement, on retrouve pas mal d'outils fabriqués pour le besoin, aussi bien à la ferme que pour les artisans.
Oui, c'était un outil pour un besoin spécifique et inventé pour ce besoin spécifique.
Voilà.
Bon, eh bien écoutez, on va en terminer pour cette partie intérieure, hein. C'était fort intéressant. Moi, j'ai découvert des choses. Alors, je ne vous cache pas, je ne regrette pas, mais j'engage tout le monde à venir au Montip, au musée de l'outil et d'art populaire. Hein.
Musée des outils anciens et d'art populaire.
Eh bien maintenant, on va se diriger à l'extérieur pour voir le reste. Maintenant, on se retrouve dans la cour du musée et Monsieur Chaudet nous a ouvert deux garages. Alors là, encore une caverne d'Ali Baba, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, dites-nous ce qu'il y a dans ce premier garage.
Alors, divers outils et aussi une baratte énorme, une baratte collective, des outils pour broyer les aliments comme le maïs, égrainer le maïs. Pour les animaux, encore un assorti, tout ce qui traite un petit peu de la vigne, mais nous le retrouverons sous l'abri. Une forge un peu portative, les superbes perceuses à inertie, et puis vous avez vraiment les deux établis là voit le travail des artisans. Ils ont bien vécu, avec, il y a un étau pour affûter les scies aussi. Et puis vous avez même un moyeu, une ébauche de moyeu.
Oui, un moyeu en bois là c'est une ébauche.
Voilà, oh là là, oui. Au fond, un gros trieur à grains.
Dans le second garage, maintenant nous arrivons. Ah, il y a des charrues.
Voilà, il y a des charrues avec l'ancêtre de la charrue, une arrière tout en bois. Le déversoir est également en bois. Et surtout la pièce maîtresse, c'est cette voiture de pompiers de la commune des Montils. Qui date de 1800, c'est marqué derrière.
Oui, 1817,
je crois.
Je crois que c'est 1817.
1837, oui. Ouais. Et avec la voiture pour emmener les pompiers, avec une attache, et derrière était la pompe. La pompe en cuivre, où vous pouvez apercevoir des genres de paniers en osier, et ça servait de filtre pour ne pas encrasser la pompe. Voilà. Et on prenait l'eau dans les mares.
Voilà. Avec le traditionnel balancier qui fait que pour pomper l'eau, on est vraiment à une autre époque, mais c'est vraiment très, très agréable de repenser à cette époque qui finalement n'était pas toujours agréable, mais quand même.
Voilà, donc ici on retrouve des pièces plus importantes comme un foudre de 28 hecto 44, c'est marqué. Un petit pressoir à vin. Cet abri est récent. Il a été financé par moitié par la municipalité et aussi par une souscription lancée par le musée. Donc on remercie tous les donateurs.
Oui, qui ont participé à la construction de cet abri et puis à la pérennisation de cet ouvrage.
Voilà, donc là vous avez des choses classiques pour la vigne, avec un pressoir à plusieurs vitesses, des pompes, des hottes en osier, donc assez anciennes. On retrouve un tarare, un moulin à grains. Et ici, ce qui fait le lien avec le tressage de cordes, c'est la faucheuse lieuse, où rien ne se perdait, donc on récupérait les ficelles. Donc vous avez, après le battage, on récupérait les ficelles en mettant bien le nœud toujours au même endroit, et après ces ficelles pouvaient être tressées pour faire des longes, des cordes, des prolonges, et qui servaient
qui resservaient de toute manière. Oui, après, oui, bien sûr. Mais écoutez, alors il nous reste quelques petites secondes. On refait un petit tour sous cet abri. Voilà. Mais alors la visite maintenant a été faite par Monsieur Chaudet et Auboire. C'est vraiment très 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 intéressant. On revient à une époque qui n'est pas si lointaine et puis qui ramène plein de souvenirs. Et tous les gens anciens s'y reconnaîtront et les jeunes pourront apprécier ce qui se passait à cette époque-là. Alors pour terminer, je vais demander à M. Auboire le mot de la fin.
Écoutez, je pense que ce rapide tour du musée a permis toucher du doigt l'inventivité de nos ancêtres, leur côté pratique, parce que bien souvent c'était des petites gens, donc il fallait qu'ils fassent avec ce qu'ils avaient, et dans des domaines qui sont extrêmement variés. Donc j'espère que nous avons donné l'envie de venir visiter ce musée qui, je le rappelle, est ouvert toute l'année sur demande.
Voilà, eh bien je vous remercie. Moi je vous recommande, je vous conseille, je vous invite à venir au Monty pour visiter ce musée des outils anciens et d'art populaire. Et puis maintenant j'ai envie de dire, eh bien pour terminer, au boulot.